Apocalypse, chapitre 3, versets 18 et 19. Le témoin fidèle et véritable nous dit: Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle. Et te repens. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Encore un autre sabbat dont nous allons profiter l'opportunité de méditer la parole de Dieu. Et pas simplement de méditer la parole de Dieu comme le font toutes les églises apostates, protestantes, mais la méditer telle que la vérité et en Jésus, comme c'est écrit. Aujourd'hui, à la suite de notre méditation précédente, où le thème était être revêtu de sa gloire, de la gloire de Dieu, et nous avons exploré, vous vous souviendrez, les détails de l'homme qui a été fait créer à l'image de Dieu. Et ce que ces détails comprenaient, tout particulièrement en rapport avec le vêtement. Et donc, pour récapituler, nous avons vu que Dieu a créé Adam et Ève à son image. Et ils étaient, Adam et Ève, comme lui, revêtus de splendeur et de majesté. Ils étaient comme lui, enveloppés de lumière comme d'un vêtement. Comme c'est écrit au psaume 104, versets 1 et 2. Et il pouvait être écrit au sujet d'eux qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point de honte. Parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu et ils étaient comme lui, enveloppés de lumière comme d'un vêtement. Mais après leur chute, ce voile de lumière et de gloire, comme l'esprit de prophétie le définit, ce voile de lumière et de gloire s'éloigna d'eux. Et ils se firent des vêtements en cousant des feuilles de figuier ensemble pour recouvrir leur nudité, qu'ils n'avaient pas vue auparavant, parce qu'elle était recouverte de lumière, enveloppée de lumière, comme le Seigneur lui-même, il l'est. Et après qu'il ait cédé à la tentation, et qu'il se soit empressé de se coudre des vêtements avec des feuilles de figuier et en se faisant des ceintures, Dieu est venu à eux, vous vous souviendrez, et Adam a eu peur parce qu'il a dit, j'étais nu, j'ai eu peur, j'ai eu honte de me montrer devant toi, de paraître devant toi, toi qui es recouvert de majesté et de splendeur. Donc après la chute, il y a commencé à avoir ce contraste entre la justice de Dieu et la justice d'Adam et d'Ève, la justice de l'homme, qui sont comme un vêtement souillé, comme c'est écrit dans Ésaïe. Et donc Dieu est venu à eux et leur a annoncé le plan du salut et le rédempteur promis. Dans Genèse chapitre 3, verset 15. C'est ce que nous avions lu la dernière fois. il est annoncé qu'il mettrait l'inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et il a déclaré que la postérité de la femme écraserait le serpent sur sa tête. Il avait déclaré prophétiquement le rôle que jouerait Jésus dans le plan du salut et de la rédemption pour nous. Comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 2, je crois, allons-y brièvement pour mettre au centre de notre méditation Jésus. Et c'est exactement ça, Hébreux chapitre 2 et verset 14. Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il, Jésus, en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisît celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, le serpent. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Pourquoi il pouvait faire ça? Pourquoi est-ce que cette activité dans laquelle il a pris part à notre même nature était si puissante pour détruire celui qui avait la puissance de la mort et nous délivrer, nous qui est-on sans cesse dans la crainte de la mort? Verset 16. Car assurément, il n'a pas secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple. Car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'était ça que Dieu a annoncé à Adam et à Ève. Et c'est ça qui a recréé dans leur cœur l'espérance en vue de toutes les choses atroces qui étaient maintenant sur le point de se déferler sur le monde à cause de leurs péchés et leurs transgressions. Et donc, s'étant repentis de leurs péchés, en mettant leur foi en ce Sauveur promis, Adam et Ève ont été revêtus de la justice de Christ. Tout comme vous et moi, lorsque nous venons à Dieu repentant et en exerçant une foi intelligente en Jésus pour notre sauveur personnel, de la même manière que nous, comme nous faisons cela, nous sommes aussi revêtus de sa justice. Comme c'est écrit dans Romains, parce que Dieu peut être maintenant juste tout en justifiant celui qui croit en Jésus. C'est cette activité du plan du salut qui a été implémentée dès la chute de nos premiers parents. Et comme c'est écrit dans la citation de Patriarches et Prophètes, à la page 46 et au paragraphe 2, c'est directement en lien avec cette déclaration de Genèse chapitre 3 verset 15 que Dieu a implémenté le système des sacrifices. Je le lis ici. Pour rappeler constamment à l'homme le souvenir de son péché et lui donner l'occasion de confesser humblement sa foi en un rédempteur futur, Dieu institua le rite des sacrifices. le rite des sacrifices d'animaux. Il institua cela pour rappeler constamment à l'homme le souvenir de son péché et lui donner l'occasion de confesser humblement sa foi dans le Rédempteur futur, Jésus. Ceci, ces sacrifices avaient pour but de faire comprendre à la race déchue la vérité solennelle que le péché avait entraîné la mort. Le premier holocauste offert par Adam lui causa une douleur intense. De sa propre main, il dut ravir à un être la vie que Dieu seul pouvait donner. C'était la première fois qu'il voyait la mort, et il savait que s'il était resté obéissant à Dieu, jamais la mort n'aurait frappé les hommes ni les animaux. En égorgeant l'innocente victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler le sang de l'agneau sans tache de Dieu. Cette scène lui donna un sentiment plus profond et plus vif de la gravité de sa transgression, qui ne pouvait être expiée que par la mort du bien-aimé Fils de Dieu. Puis Adam s'émut devant la bonté infinie de celui qui consentait à offrir une telle rançon pour sauver le coupable. Une étoile d'espérance illumina dès lors l'avenir qui lui avait paru si sombre et si désolé. Et donc, ce premier sacrifice, il était rempli de tout ce sens-là, et à la suite de ce premier sacrifice, nous lisons dans Genèse chapitre 3, revenons-y, verset 21, nous lisons que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Donc, avec ce premier sacrifice, Dieu fit usage de la peau de ces bêtes mortes et en revêtit Adam et Ève. De sorte que cette activité de justification par la foi, elle fut directement combinée et suivie par ce revêtement physique et littéral d'Adam et Ève, de l'homme. Donc nous voyons à travers cela qu'il y a dans l'Écriture un lien très intime entre le péché et la nudité et entre le vêtement et la justification du pécheur par la foi. Très intime, parce que vous voyez, dès que Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, Genèse chapitre 3 verset 6, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, etc., et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle. Il en mangea. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après au verset 7? Et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Juste après qu'ils aient péché, l'esprit de prophétie nous dit que la robe, le voile de lumière et de gloire qui les avait enveloppés jusque-là s'éloigna d'eux. Et donc, il peut être écrit ici, sous l'inspiration, que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Avant, ils ne savaient pas ce que c'était leur nudité parce qu'elle était enveloppée de lumière comme d'un vêtement, comme Dieu il est, parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, mais maintenant ils savaient, juste après le péché, il s'est ensuivi la nudité. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après la justification de Dieu, d'Adam et Ève, et par la foi en ce rédempteur futur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce rédempteur promis? Dieu a fait à Adam et à sa femme des robes de peau et les a revêtis. Il y a donc bel et bien ce lien très intime entre le péché et la nudité, entre le vêtement et la justification du pécheur par la foi. Ces choses sont extrêmement proches les unes des autres, dans le sens où Dieu les fait extrêmement proches. Il y a dans cette activité une relation de cause à effet. Le péché va directement entraîner la nudité, parce que comme c'est écrit dans Ésaïe, nos justices sont comme un vêtement souillé, et donc lorsque nous péchons, nous commençons à produire nos propres justices, et nos justices, qui ne sont qu'un vêtement souillé, ne recouvrent pas toute notre nudité. Comme c'est écrit dans la parabole de Jésus, comme nous l'avions lu dans nos études précédentes. Je vous y réfère. Et il y a également une relation de cause à effet dans les injonctions et la volonté parfaite de Dieu lorsqu'il vient et qu'il manifeste à nous son amour, en ce que juste après qu'il est justifié, qu'il est établi ce système des sacrifices symboliques, juste après cela, il a revêtu nos premiers parents de robes de peau pour couvrir leur nudité. Directement et intimement relié, il y a, nous voyons, cette relation. Et c'est d'ailleurs exactement ce que l'esprit de prophétie nous révèle très succinctement dans cette déclaration qui se trouve dans Conseil à l'Église, à la page 145 et au paragraphe 2. Conseil à l'Église, page 145, paragraphe 2. Il est écrit « On juge généralement une personne d'après ses habits et la façon de les porter. » Quoi ? Comment est-ce qu'on juge une personne ? On juge généralement une personne d'après ses habits et sa façon de les porter. Donc est-ce que mes habits et ma façon de les porter va être quelque chose qui va pouvoir permettre aux personnes extérieures de juger de mon caractère? C'est ce que nous lisons ici. Et d'ailleurs, j'aimerais trouver cette citation parce que dans la version élargie, il y a quelque chose de plus qui est dit. Voilà. Dans Conseil à l'Église, page 145, paragraphe 3. Nous jugeons le caractère d'une personne par sa façon de se vêtir. C'est la même chose, mais plus élargie ici, vous voyez. Qu'est-ce que nous jugeons? Qu'est-ce que nous jugeons de la personne par ses habits et sa façon de les porter? Nous jugeons le caractère d'une personne par sa façon de se vêtir. Le caractère. Et à un autre endroit, l'esprit de prophétie nous déclare que les vêtements révèlent le cœur de l'homme ou de la femme. Les vêtements révèlent le cœur, ou comme c'est écrit ici, nous jugeons le caractère d'une personne par sa façon de se vêtir. Et donc ici, parce que Adam et Ève étaient des personnes humbles et soumises à Dieu, quand bien même ils avaient péché, lorsque Dieu leur a déclaré le plan du salut, il leur a déclaré le sauveur promis, le développement de l'esprit de prophétie nous déclare que ils ont accepté le plan du salut. Et comme nous venons de le lire dans la citation de Patriarche et Prophète, page 46, Adam avait le cœur brisé lorsqu'il a offert ce sacrifice qui était symbolique de la mort que Jésus allait endurer pour lui et pour chacun de nous, pécheurs. Ça lui a causé une douleur intense, le fait de penser que son péché, sa transgression allait causer tant de souffrance à Dieu. Et donc c'était ça la teneur de leur cœur, de leur caractère, de son caractère, en recevant la propitiation offerte par Dieu à un tel prix. Adam, il était contrit, il était repentant, il n'était pas indifférent et nonchalant face à un sacrifice si grand et si coûteux à Dieu en faveur de l'homme pécheur et perdu. Il avait cette contrition, cette humilité, cette repentance sincère et profonde. Et comment est-ce que ce caractère-là, qui était le sien par l'amour de Dieu, la grâce qui se déversait en son cœur repentant, comment est-ce que ce caractère qui était maintenant le sien se révélait? Eh bien, nous lisons que Dieu a fait des robes de peau et les en a revêtis. Adam et Ève ont été revêtus de ces robes de peau qui maintenant reflétaient leur caractère, qui était le caractère de Jésus qui leur était imputé par la foi. Comme nous lisons ici, nous jugeons le caractère d'une personne par sa façon de se vêtir. Donc je ne suis pas, peut-être pas encore parfait, mais si par mon humilité et mon esprit sincère de repentance, je reçois l'amour de Dieu, sa justice et son caractère m'est imputé par la foi. Je suis tout de même appelé à persévérer dans une activité de sanctification à travers laquelle Dieu veut parfaire en moi directement son caractère pour le transmettre de manière vivante, mais par la foi, pécheur comme je suis, Dieu me voit juste de la justice de Christ. Et on peut juger si vraiment je suis chaque étape de la justification et de la sanctification. Eh bien, on pourra juger de mon caractère par la façon dont je me revais. Mais ce n'est pas la façon dont moi je veux me revêtir, c'est la façon dont moi je permets à Dieu de me revêtir. Parce que nous lisons que l'Éternel Dieu a fait à Adam et à Ève des robes de peau et les en a revêtis. Ils ne se sont pas fait eux-mêmes des robes de peau. La prérogative de Dieu, c'est de choisir nos vêtements pour nous et nous sommes appelés à prendre les vêtements qu'il nous donne. Et c'est vrai sur le plan spirituel et aussi sur le plan littéral et physique. C'est essentiel pour nous de comprendre ce que ça veut dire sur le plan spirituel. Ce que nous avons fait dans notre série de revêtus de sa justice, comme vous vous souviendrez, mais c'est tout autant important que nous suivions le procédé dans lequel Dieu nous accueille et nous appelle dans l'élément du revêtement dont il veut nous revêtir physiquement, littéralement et concrètement. Parce que ce vêtement dont nous nous revêtons, le monde pourra juger le caractère de notre personne par ce vêtement. Et ce vêtement nous permettra de discerner si nous avons vraiment été justifiés pleinement par Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, c'est très très lié à notre lecture biblique de Apocalypse chapitre 3, verset 18, où Jésus, il parle à Laodicée, l'église du jugement. Il nous dit, il dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Il est question ici de la justice, du caractère de Dieu qu'il veut nous transmettre. C'est de ça qu'il s'agit au premier abord et presque uniquement. Mais il faut garder en tête que la justification par la foi et la sanctification dans laquelle Dieu nous appelle, elle est, comme nous l'avons vu, intimement liée aux vêtements dont nous nous revêtons, à ce que nous mettons sur notre personne. C'est intimement lié, c'est indissociable. Et donc, lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il nous conseille d'acheter de lui des vêtements blancs, si vraiment je reçois les vêtements blancs qu'il me donne et qu'il me conseille de chercher auprès de lui, d'acheter de lui, eh bien, cela aura un effet sur ce que je porte sur mon corps. Et rappelons-nous de l'ordre. Rappelons-nous de l'ordre. Il s'agit premièrement d'entrer dans cette relation où nous ressentons le poids du péché et les conséquences graves de la transgression et que ensuite nous ressentons l'Esprit de Dieu agir sur nos cœurs, faire remuer à l'intérieur de nous nos entrailles pour nous faire comprendre le sacrifice qu'il a fait pour remédier à notre chute morale. C'est alors que nous rentrons dans ce processus où notre cœur est touché et brisé et frappé, que Jésus a été frappé pour nous, que nos iniquités sont tombées sur lui. C'est lorsque nous entrons dans ce schéma-là que ensuite cela a un sens pour nous de nous revêtir concrètement de ce vêtement que Dieu nous destine et nous appelle à prendre sur nous. Ça ne peut pas aller dans l'ordre inverse. Il faut que ça vienne du cœur et que ensuite ça aille vers l'extérieur. Et donc à la lumière de tous ces propos maintenant, j'aimerais que on se penche sur les principes biblique de modestie et de nudité. C'est très important parce que ce sont des choses, l'esprit de prophétie nous dit dans le livre évangélisé que ce sont des choses sur lesquelles les croyants doivent recevoir des instructions. Parce que il y a dans le monde aujourd'hui une dimension et un degré de décadence morale qui est telle que la mode et les vêtements qui sont associés à cette mode vont directement à l'encontre de la puissance de l'évangile comme nous l'avions vu la dernière fois. Et donc pour préserver la puissance de l'évangile dans nos vies, il faut nous assurer que nous ne contredisons pas l'activité de la justification par la foi et de la sanctification opérée par l'Esprit de Dieu et notre coopération, que nous ne pervertissions pas cette activité en nous revêtant d'habits qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et pour cela, on se tourne vers le passage principal de 1 Timothée, chapitre 2, et versets 8 à 10. 1 Timothée 2, versets 8 à 10. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère et sans contestation, et que pareillement les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et ici, la version Darby, au verset 9, se lit comme ceci, et que pareillement les femmes se parent d'un costume ou d'une tenue décente, d'un vêtement honnête, d'une tenue décente, avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, nous avons plusieurs aspects que la parole de Dieu est en train de relever pour nous et que nous voulons relever à sa suite. Je reviens. L'homme est appelé à prier en tout lieu en levant des mains pures, non pas tachées par le péché, par le sang, par la colère ou la contestation. Et ensuite, la femme est appelée à se parer d'un vêtement honnête, d'une tenue décente, avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux. Vous avez ici un étalage qui est décrit ici par de l'or, des perles, des habillements somptueux. Mais quand bien même vous n'avez pas suffisamment d'argent pour porter de l'or ou des perles, avec peu d'argent, il est tout de même possible aujourd'hui d'acheter ce genre d'étalage supplémentaire pour porter sur votre personne. Et donc l'apôtre, il parle ici de se parer d'un vêtement honnête, décent, avec pudeur et modestie. Pas de chercher à obtenir une coiffure extrêmement élaborée, comme il le dit ici, non de tresses de cheveux. C'est très intéressant ici. La parole, elle dit non de tresses de cheveux. Et c'est surtout sur les aspects du vêtement honnête, de la pudeur et de la modestie qu'on veut maintenant se pencher. C'est sur ces aspects-là qu'on veut maintenant porter toute notre attention. Et en n'ignorant pas le fait important que ces choses-là sont directement associées à l'homme ou à la femme. Simplement, l'apôtre sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ici, il est surtout en train de souligner le problème de la femme, parce que la femme est douée d'une beauté et d'une élégance que Satan a pour but de pervertir afin de faire chuter l'homme. À travers les siècles et les siècles de notre histoire terrestre, la femme a toujours été employée par le diable pour tenter l'homme et faire tomber l'homme et sombrer l'homme dans la tentation. C'est une réalité que nous ne pouvons pas écarter de devant nos yeux, frères et sœurs. Il nous faut absolument être très attentifs à ces choses-là. Je ne saurais souligner suffisamment l'importance de ces choses-là. Parce que nous savons bel et bien que l'ennemi a des artifices nombreux et variés par lesquels il crée en nous des désirs et des aspirations, mais il est important pour nous de discerner la raison pour laquelle il cherche à nous dévier, à nous faire nous éloigner du droit chemin. C'est pour les femmes, son but est de faire des femmes un objet, une occasion de chute envers l'homme. Et nous le voyons lorsque Ève a succombé à la tentation, la première chose qu'elle a faite, c'est de venir tenter Adam. Et donc l'apôtre ici, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il dit, et pareillement que les femmes se parent d'un vêtement honnête, d'un vêtement décent, avec pudeur et modestie. Non pas de tresses de cheveux, ni d'or, de perles, ou d'habillements somptueux, mais de bonnes œuvres, de bonnes œuvres. C'est sur cela qu'elles devraient appliquer toute leur assiduité et leur attention. Pas sur toutes ces décorations de la personne, mais sur les bonnes œuvres, la simplicité, la pudeur, la modestie, la décence, la pureté. Comme cela, elle servira Dieu. Elle fera plaisir à Dieu. Elle sera agréable à Dieu. C'est un appel sobre et élevé. C'est l'appel de la parole de Dieu. Mais nous savons que aujourd'hui, nos penchants sont tels que nous sommes enclins à lire ces paroles-là et à dire pudeur, modestie, et sans autre indication, nous pouvons très bien ajouter notre propre définition à ces choses-là. Et nous nous disons, mais je suis pudique, je suis modeste, j'ai pas beaucoup de décorations sur ma personne, c'est simple, mon habillement est simple. Simplement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire je m'habille modestement, je m'habille avec pudeur et je m'habille avec décence. Il faut vérifier cela par la parole de Dieu. Vérifions si nos cœurs sont ouverts et donnés et offerts à Dieu. Nous n'aurons pas peur de vérifier. Avez-vous peur de vérifier si ce que vous croyez être de la modestie est bel et bien de la modestie selon le Seigneur? Si vous êtes offert, si je suis offert sans réserve à l'Éternel, je n'aurai pas peur de vérifier. Je n'aurai pas peur de sonder. Et je me soumettrai à chaque ainsi dit l'Éternel. Je ne repousserai pas les injonctions de l'Éternel, je n'hésiterai pas, je ne clocherai pas d'un pied et de l'autre, mais je prendrai à bras ouverts les conseils du Seigneur. Lorsqu'il me dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Et tu vas voir si tu ne t'habillais pas selon la vraie modestie, tu vas comprendre que tu n'avais pas encore toute la plénitude de ces vêtements blancs que je t'offre. Parce que lorsque nous voyons et que nous discernons et que nous percevons que nos voix sont si éloignées de ces voix, et si abaissé par rapport à ces voies qui sont si élevées, alors si nous sommes de la même carrure, de la même teneur, du même calibre que Adam, cela va créer en nous un désir de plaire à Dieu, quoi qu'il m'en coûte. Et cela va créer en moi un sentiment plus profond de la douleur que mon péché a causé au Fils de Dieu. Donc sans plus tarder, nous posons la question. Qu'est-ce que la pudeur et la modestie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment? La pudeur et la modestie? Et qu'est-ce que la nudité? Parce qu'il dit, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta nudité ne paraisse point. Le sens premier, c'est pour que ton péché ne soit pas un spectacle aux hommes et que tu contamines tous les hommes. Mais le sens second et indissociable, c'est que ta nudité, véritablement, concrètement, elle soit couverte. De la même manière que moi, l'Éternel, j'ai revêtu et couvert la nudité d'Adam et d'Ève après que je les ai pardonnés pour leur terrible péché. Et donc, qu'est-ce que la nudité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la nudité selon la Bible? Nous allons dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 10 et versets 1 à 5. Ce que nous cherchons ici, c'est simplement au verset 4, mais il faut lire le contexte parce que sinon ça ne fera pas beaucoup de sens. 2 Samuel, chapitre 10, verset 1, pour commencer. Après cela, le roi des enfants d'Ammon mourut, et Hanun, son fils, régna à sa place. Et David dit, « J'userai de bonté envers Hanun, fils de Nakash, comme son père a usé de bonté envers moi. » David envoya donc ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Et les serviteurs de David vinrent au pays des enfants d'Ammon. Mais les chefs d'entre les enfants d'Ammon dirent à Hanun, leur seigneur, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs ? N'est-ce pas pour reconnaître exactement la ville, pour l'épier et la détruire, que David envoie ses serviteurs vers toi ? » Hanun prit donc les serviteurs de David et leur fit raser la moitié de la barbe et couper la moitié de leurs habits jusqu'aux hanches. Puis il les renvoya. Et donc, qu'est-ce que Hanun il vient de faire à ses serviteurs de David? Il leur a fait raser la moitié de la barbe et il a fait couper la moitié de leurs habits jusqu'aux hanches et il les renvoya. Verset 5, « Et cela fut rapporté à David qui envoya au-devant d'eux, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Tenez-vous à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et alors vous reviendrez. » Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà que ses serviteurs, ils sont allés voir Hanun, et Hanun, il leur a fait couper leurs habits jusqu'aux hanches, et couper la moitié de leur barbe. Bon, sans parler de la moitié de la barbe, qui est complètement ridicule, il y a aussi un autre aspect ici. Il a fait couper leurs vêtements, leurs habits, jusqu'aux hanches. Donc, ils se sont retrouvés plus ou moins comme avec un t-shirt et en dessous, ils avaient probablement des espèces de caleçons. Donc ils étaient plus ou moins comme des personnes comme nous en voyons aujourd'hui à la plage avec un short. Avec un short. Un short pour homme. Et qu'est-ce qu'ils étaient ? Ces hommes étaient dans une grande confusion. Et en anglais, c'était « ils étaient grandement honteux ». Ils avaient honte. Ils étaient dans une confusion à cause de cette situation. Donc nous avons un indice ici. Parce que Jésus, il dit qu'il nous conseille d'acheter de lui des vêtements pour que la honte de notre nudité ne paraisse point. La nudité provoque une honte. Et ici, ces hommes-là étaient honteux. Ils étaient dans une grande confusion à cause de ce qu'on leur avait fait. Parce que cela avait fait venir sur eux l'opprobre d'être mis à nu comme cela. Et je vous pose la question. Est-ce que nous avons aujourd'hui des personnes qui marchent comme cela? Avec, en dessous des hanches, presque rien. Des shorts pour hommes. Et maintenant, dans Exode, chapitre 28. Vous voyez, nous lisons ces choses dans un but très précis. C'est de discerner la pudeur et la modestie. C'est ce que nous avions lu. Les femmes sont appelées à se parer d'un vêtement honnête, décent, avec pudeur et modestie. Est-ce qu'ils avaient de la pudeur, ces hommes? Ils avaient de la pudeur. Et ils avaient de la modestie. Et quand cette pudeur et cette modestie ont été entravées, ils étaient dans une grande confusion. Dans une grande confusion. C'est ça, nous lisons la parole de Dieu pour que la parole de Dieu crée en nous une grande confusion. Si nous sommes dans une telle condition mentale de choses que ce qui leur provoquait de la honte ne nous fait rien à nous. Ces hommes, quand ils se sont retrouvés en short devant le monde, étaient dans une grande confusion. Ils n'étaient pas du tout à l'aise. Ils n'étaient pas dans une confusion parce qu'il faisait froid. Ils vivaient en Israël, le temps était plutôt clément. Mais ils ne se baladaient pas en short. Quand ils avaient été forcés de se retrouver en short, ils étaient dans une grande confusion. Frères et sœurs, est-ce que je suis revêtu de vêtements blancs? Nous avons vu, la justification de l'homme par la foi est intimement reliée aux vêtements que Dieu veut lui faire porter. Et nous avons lu que nous jugeons généralement le caractère d'un homme par sa façon de se vêtir, par ses habits et la façon qu'il a de les porter. Donc si je porte ce genre de choses sur ma personne, qu'est-ce que cela en dit sur mon caractère? Qu'est-ce que cela révèle de mon cœur? Est-ce que je suis nu à l'intérieur comme à l'extérieur? Allons maintenant dans Exode chapitre 28. Exode chapitre 28, versets 40 et 42. Tu feras aussi, Dieu parle ici à Moïse, où il instituait et il lui prescrivait chacun des détails des ornements du sanctuaire, des éléments du sanctuaire et ici même des vêtements du prêtre du sanctuaire. Et il dit, au verset 40, « Tu feras aussi pour les fils d'Aaron des tuniques, des ceintures et des mitres pour leur gloire et pour leur ornement. » Et tu en revêtiras, verset 41, et tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les installeras, et tu les consacreras, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Fais-leur aussi des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, qu'ils tiennent depuis les reins jusqu'aux cuisses. Là, nous avons un élément supplémentaire pour définir la pudeur et la modestie. Ici, Dieu est en train de dire à Moïse, tu vas faire des habits pour Aaron. Lui, Aaron et ses fils. Parce que les Aaron et ses fils sont quoi? Ils représentent l'Éternel au peuple. C'était le devoir et le rôle des prêtres du sanctuaire, c'était de représenter le Seigneur Dieu au peuple. Et il a dit, tu feras aussi, pour Aaron, tu feras la tunique en tissu de fin lin, et pour les fils d'Aaron, des tuniques aussi, des ceintures et des mitres pour leur gloire et pour leur ornement. La gloire, très 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 important ici, la gloire et leur ornement. Pas simplement leur ornement, la gloire. Dieu était en train ici de dire à Moïse, tu vas les revêtir de gloire. Et il dit au verset 42, fais-leur aussi des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, qu'ils tiennent depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc cet élément supplémentaire, qu'est-ce que c'est? Nous avons vu avec ces serviteurs de David que lorsqu'ils sont venus à Hanan, il leur a fait couper la barbe au milieu, il leur a fait couper leurs habits au niveau des hanches, que ces hommes étaient dans la grande confusion parce qu'ils étaient pudiques, ils étaient modestes et on venait de les mettre dans la honte. On venait de faire retomber sur eux l'opprobre. Et ici, Dieu dit, il dit à Moïse, tu feras pour Aaron et ses fils des caleçons. Mais attention, c'est pas n'importe quel caleçon. C'est pas des caleçons comme aujourd'hui qui viennent juste en dessous de la fesse. Il s'agit d'autre chose ici. Tu feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Mais quoi? Attention, attention. Quelle nudité? De quoi parle-t-il? Il faut lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut que nous lisions et que nous laissions Dieu définir les mots importants. Pour couvrir leur nudité. Qu'ils tiennent depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc, en d'autres termes, il était en train de dire, les caleçons que tu feras à Aaron et à ses fils, ils iront du bassin jusqu'aux genoux. C'est en mots modernes ce qu'il était ici en train de dire. Du bassin jusqu'aux genoux. Pourquoi? Pour couvrir leur nudité. Donc Dieu est en train de dire très spécifiquement que la partie de l'anatomie humaine qui est située entre le bassin et le genou, ça constitue la nudité de l'homme. C'est la nudité. Que si ces choses sont révélées, vous êtes en train de révéler la nudité. Je suis simplement en train de expliquer la parole de Dieu ici. Je n'ai rien ajouté, rien supprimé. C'est tel que c'est écrit. Et pour compléter cela, pour compléter, frères et sœurs, parce que, soyez attention, attention, frères et sœurs, c'est très important. Nous voyons aujourd'hui, ici et là, des vents de doctrine qui ont complètement abattu ces piliers de la foi adventiste. Nous avons besoin de rétablir les sentiers d'autrefois. Ces sentiers où les gens ne marchent plus. Il y a tellement de ronces que les gens n'y vont même plus. Rétablissons les chemins oubliés. Dans Exode chapitre 20, verset 26. Avant que nous lisions ce passage, frères et sœurs, j'aimerais demander, vous poser la question. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que j'aime Jésus tellement que quoi qu'il me dise, ça sera pour moi une lettre d'amour? Ça sera pour moi emprunt, ça sera pour moi marqué de son amour. Ici, vous vous souviendrez, il dit, celui que j'aime, qu'est-ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, car je reprends et je châtie celui que j'aime. Donc lorsqu'il nous dit des choses qui ne sont pas en accord avec nos habitudes et nos pratiques, il nous reprend et il nous châtie parce qu'il nous aime. Et donc il nous dit, et donc du zèle et te repens. Exode chapitre 20, verset 26. Et Dieu il dit ici à Moïse, à son peuple, à travers Moïse, et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Quoi? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? C'est trop souvent le cas que lorsque nous lisons des choses qui ne sont pas en accord avec notre vie, nous avons une fâcheuse tendance en tant qu'être humain à négliger d'approfondir. Et donc ici, je vous invite, frères et sœurs, à approfondir. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Donc, on a vu jusqu'ici que au niveau des hanches, si cela est découvert, c'est la nudité de l'homme. Nous avons continué et nous avons vu que, comme c'est écrit dans Exode chapitre 28, verset 40-42, nous venons de voir que tout ce qui est entre le bassin et le genou, c'est la nudité. Et nous voyons ici un aspect encore plus important. Qu'est-ce qu'il dit? Il était en train de dire, vous n'allez pas fabriquer mon autel avec des marches, de peur que votre nudité ne soit découverte lorsque vous montez les marches. Est-ce que vous réalisez un peu la teneur de ces paroles? Cela vous donne un ordre d'idée de combien Dieu est saint. Est-ce que vous vous rappelez quelle était la vision de Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6? Il voyait Dieu sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe. Ça veut dire que sa robe, elle était tellement longue que les pans de sa robe, ils remplissaient le temple. un peu comme ces fameuses robes de mariée que l'on voit ici, qui sont si à la mode dans les mariages traditionnels, entre guillemets. Et donc ici, il était en train de dire que dans les conseils que je vous donne sur le vêtement des prêtres dans mon sanctuaire, vous allez faire un autel avec une rampe. C'est ça qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Tu ne monteras point à mon autel par des degrés. Parce que lorsque vous montez d'une marche à une autre, il y a quoi qui est révélé? Qu'est-ce que c'est qui se montre? La cheville. La cheville, c'est ça qui est montré. Même si les marches sont très hautes, vous ne verrez pas plus que le bas du mollet. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça la parole de Dieu, frères et sœurs. Lorsque nous lisons attentivement et que nous faisons attention à ce que nous lisons et à ce qui est écrit, nous recevons des leçons profondes. Donc il disait, vous n'allez pas mettre de marche pour monter à mon autel de peur que l'on voie votre nudité, que votre nudité soit découverte, que vos chevilles soit découverte. La nudité. C'est cela, la définition biblique de la nudité. Et donc, pour clore notre méditation aujourd'hui, nous voulons lire cette déclaration, encore une fois, de l'esprit de prophétie, dans Conseil à l'Église, à la page 144, où on nous dit « Nous devrions chercher à avoir une présentation aussi correcte que possible. En relation avec le service du tabernacle, Dieu avait pris soin de mentionner chacun des détails se rapportant aux vêtements de ceux qui devaient officier en sa présence, nous montrant ainsi qu'il a une préférence sur la manière de se vêtir de ceux qui le servent. Les indications qui sont données au sujet des robes d'Aaron sont très précises. Très précise, n'est-ce pas? C'est exactement ce que nous venons de voir ici. Elles sont très précises. Le caleçon jusque au bas de la cuisse. Ensuite, faites attention à ne pas monter par des degrés à mon autel. Très, très précis ici. Qu'est-ce qui est écrit? Les indications qui sont données au sujet des robes d'Aaron sont très précises, car ces robes avaient un caractère symbolique. De même, les vêtements des disciples de Christ devraient être symboliques. Nous devons être en toutes choses ses représentants. Notre apparence à tous les égards devrait se caractériser par la propreté, la modestie et la pureté. Donc, pourquoi est-ce que nous avons ces indications qui sont si précises? C'est parce que ces robes d'Aaron, elles n'étaient pas simplement pour les prêtres, pas simplement pour faire joli, pour un ornement, mais pourquoi? Qu'est-ce que nous avons lu? Pour ornement et pour gloire. Pour ornement et pour gloire. Les vêtements, les robes d'Aaron, avait un caractère symbolique, un caractère symbolique de la gloire de Dieu. Et comment est-ce que cette gloire de Dieu était manifestée dans le symbole du vêtement? En ne permettant pas à une seule partie des jambes d'être révélé. Et de même, les vêtements des disciples de Christ devraient être symboliques. Nous devons être en toutes choses ses représentants. Notre apparence à tous les égards devrait se caractériser par la propreté, la modestie et la pureté. Voilà comment le Seigneur nous a donné et nous donne une définition sans équivoque de la modestie selon les principes de la Bible. Et donc, si vraiment nous jouissons de l'amour compatissant et miséricordieux de Dieu envers nous, nos habits rendront témoignage que nous sommes véritablement revêtus de la justice de Christ. Parce que comme c'est écrit, les vêtements des disciples de Christ devraient être symboliques. Cela veut dire que de la même manière que nous croyons que Dieu a opéré un sacrifice parfait et complet pour revêtir complètement notre nullité spirituelle, ainsi nous allons manifester. Si vraiment nous croyons cela, nous allons manifester ce symbole à travers nos vêtements. Nous allons symboliser par nos vêtements cette activité que Dieu opère dans nos cœurs en illustrant ce qu'il crée en nous par un vêtement qui symbolise parfaitement et qui représente parfaitement ce que Dieu a fait en nos cœurs par l'activité de Dieu ayant envoyé Jésus-Christ dans la chair pour souffrir avec nous et pour servir de sacrifice expiatoire pour nos péchés. Donc, puisse le Seigneur nous assister à travers cette nouvelle découverte des principes bibliques de la modestie et de la nudité pour que l'on puisse mettre directement en pratique dans nos vies cet aspect inévitable de l'œuvre du salut pour nous aujourd'hui. C'est ma prière. Amen.